dans le podcast L'Amoureuse, le podcast qui éveille les consciences. Je suis Stéphanie Solina, coach de vie holistique et spirituelle, et ma mission est de vous accompagner afin de révéler votre lumière intérieure pour vous diriger vers un mieux-être. Je suis tout le temps celle qu'on écoute, celle à qui on confie ses malheurs, et je suis vraiment comme un peu toujours la bonne copine. Et clairement, il est clair qu'on peut compter sur moi, et je pense même que j'ai largement la force mentale pour soutenir l'autre. Je suis toujours là quand on a besoin de moi, et je dirais même que c'est comme un besoin vital, je peux pas m'empêcher. Même si je suis épuisée, c'est pas grave, je vais toujours aller aider l'autre. Je pense qu'en entendant ces phrases, vous avez probablement pu vous reconnaître. Je suis donc ravie de vous retrouver cette semaine pour aborder un sujet assez important en psychologie, qui est celui du syndrome du sauveur, qui soulève énormément de thématiques. Et bien évidemment, je vais vous l'aborder toujours de mon point de vue et avec une vision spirituelle. Allez, c'est parti, partons dans une mission, mais cette fois-ci, pour vous sauver vous-même. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Alors, si vous ne savez pas réellement ce que c'est le syndrome du sauveur, on va déjà commencer par poser les bases. Le syndrome du sauveur, en fait, il se décrit comme un besoin permanent, allant même jusqu'à pouvoir se sacrifier, hein, littéralement s'oublier, pour aider l'autre. Et à force, c'est un mécanisme qui est bien souvent quand même inconscient et qui est présent depuis tout jeune. Et on pourrait penser que cet attrait relève d'un admirable et honorable côté altruiste. Mais en réalité, c'est assez tendancieux et ça touche bien souvent à un besoin d'émettre cette action pour recevoir une espèce de gratitude permanente afin d'exister. Et c'est ça toute la particularité. Ouch, je sais, ça fait mal d'entendre cela et vous devez quand même probablement vous offusquer en vous disant « Mais non, mais pas du tout, mais absolument pas, mais j'attends rien en retour. » Je vais vous demander vraiment tout au long de ce podcast de garder bien l'esprit ouvert, car les pièges de votre ego et vos potentiels comportements d'auto-sabotage sont partout. Et je tiens également à préciser que l'on parle du syndrome du sauveur lorsque ce besoin d'aider l'autre conditionne la relation. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre de place dans la relation. On pourrait se poser la question, quel rôle je tiens au juste ? Quel est ce rôle-là ? Est-ce que c'est celui de la copine ? Ou plutôt de la sœur ? En amitié ? Ou alors est-ce que c'est celui de la compagne ? Ou alors de la maman ? Dans une relation amoureuse ? Et pour ce qui est de l'origine de ce syndrome, c'est-à-dire l'élément, le facteur qui a déclenché ce mécanisme, eh bien ça remonte bien souvent à l'enfance. Et plus particulièrement quand l'enfant a eu ce besoin de tenir ce rôle de parent envers son propre parent, quand il était en difficulté de le faire. Et ça peut être par exemple si vous avez eu un parent qui est dépressif, un parent malade, un parent alcoolique, etc. et j'en passe. L'enfant, il est très lié à ses parents, ou du moins une figure autoritaire, de environ ses 0 à 6-7 ans. Et en fait, il est normal qu'aucun enfant ne souhaite voir ses parents dépérir, alors même si l'enfant est jeune, il peut prendre cette place-là effectivement. Et ce mécanisme mis en place chez l'enfant crée un espèce de codépendance envers l'autre. Puisque toute son enfance, il a vécu et il a existé qu'à travers les besoins et les désirs de l'autre, quitte à faire complètement taire les siens pour justement sauver l'autre. Et ce mode de fonctionnement-là, totalement inconscient, eh bien va continuer encore et encore tout au long de sa vie si la personne n'en prend pas conscience. Après, ça c'est l'explication potentielle de la source, mais c'est pas la seule explication. Ce fonctionnement, il peut aussi apparaître quand une personne est à sauver, quand elle a besoin d'être sauvée, quand en réalité personne n'a été là pour elle, quand elle avait justement ce besoin d'être écoutée, d'être épaulée, d'être entendue. Justement, cette personne aurait voulu ça. Et parce qu'elle n'a pas eu ce sentiment-là, eh bien, elle peut développer ce syndrome du sauveur. Vu que je n'ai pas eu ça et que je sais ce que l'on ressent, eh bien, en réalité, je veux que personne ressente ça. Donc, je me place constamment dans la position du sauveur. Et ça soulève une question très intéressante. En réalité, qu'est-ce que vous essayez de sauver dans cette situation ? Est-ce que c'est l'autre ? Ou est-ce que c'est peut-être vous, quand vous étiez dans cette période-là et que vous en aviez besoin ? Et ça, c'est une question qui peut bien faire réfléchir, mais qui a toute son importance. Parce que ça peut paraître un sauvetage de l'autre, dans ce genre de situation-là, mais en réalité, la seule personne que vous essayez de sauver, c'est vous-même. Et en parlant de sauvetage pour soi, il y a un phénomène en psychologie qui est très intéressant à comprendre également, qui est celui du triangle de Karpman. Et dans le triangle de Karpman, on peut observer qu'il y a trois rôles. Premièrement, il y a celui de la victime, du sauveur et du bourreau. Et je vais vous donner un exemple pour que vous puissiez justement bien comprendre. Et souvent, celui qui est le plus intéressant, c'est au niveau du parent et de l'enfant, des parents et de l'enfant. Par exemple, ça peut être le parent qui trouve que son enfant n'a pas du tout agi correctement. Et donc, le parent vient donc lui faire une remontrance à ses corsets. Ce premier parent prend donc le rôle de bourreau. L'enfant se positionne donc en rôle de victime. Et l'autre parent qui estime que en fait, la remontrance a été vraiment injuste, eh bien, va prendre la position de sauveur en exprimant son total désaccord face au bourreau. Voilà un peu l'exemple typique du triangle de Karpman, mais ce triangle eh bien, peut apparaître dans plein d'autres situations. Par exemple, un autre exemple justement, un couple d'amis qui se disputent, la femme demande au meilleur ami de son mari de savoir qui a raison justement dans cette dispute. Donc le meilleur ami, il devient la victime. L'homme dans le couple eh bien, trouve totalement injuste que sa femme mêle son meilleur ami dans la conversation. Il essaye donc de défendre son meilleur ami en prenant la position de sauveur et la femme qui se retrouve inévitablement en position de bourreau. Mais c'est pas tout, parce que les positions, elles, peuvent venir s'échanger. Et oui, parce que de position, admettons, de victime qu'avait le meilleur ami, s'il commence à donner un avis qui n'est pas forcément favorable au compagnon, eh bien le compagnon, tout de suite, qui a trouvé sa remarque injuste, devient le bourreau. Et la femme qui va essayer de calmer le jeu prend la place de sauveuse. Et admettons, par exemple, si son meilleur ami il a ce syndrome du sauveur depuis tout petit et qu'il ne peut pas vraiment s'empêcher de voir son meilleur ami se faire descendre par sa femme, directement, c'est en mission sauvetage. Sauf qu'on peut penser qu'il est en mode sauveur, alors qu'en réalité, il peut passer pour un bourreau. Et c'est ça en fait le côté tendancieux du syndrome du sauveur, c'est qu'il faut faire très attention à ce triangle qui peut vite se créer dans les relations. Mais on en reparlera un petit peu plus tard dans ce podcast justement de ce triangle, parce que je vous donnerai toutes les indications pour arriver à sortir de cette situation infernale. Le premier point que je voulais aborder avec vous dans ce podcast, c'est ce qui est nécessaire de comprendre face au syndrome du sauveur, c'est que ce mécanisme, il est vraiment criant de vérité et que la seule personne que l'on essaye de sauver dans toutes les situations, c'est d'abord soi-même. Et particulièrement quand on dépend de l'autre pour se sentir vivant, pour exister en ayant ce besoin de le sauver. Alors, tout ce que je dis là, évidemment, c'est un besoin qui est très souvent inconscient. Alors de l'entendre comme cela, je comprends que ça peut être assez déroutant. Mais ce phénomène, en fait, il révèle un besoin, voire une nécessité d'apprendre à vivre pour soi et non à travers l'autre. De redonner la place à ses propres besoins et désirs et d'apprendre à être dans sa complétude. Et l'une des choses qui bouffe une énergie, mais vraiment incommensurable, c'est justement de vivre à travers l'autre. Car comme vous n'êtes pas dans sa tête, eh bien ça demande toujours de réfléchir à ce qu'il a besoin, à ce qu'il désire, pour venir vous sécuriser, car ça vous sécurise de vivre à travers l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez un petit peu le mécanisme. Et en faisant cela, vous êtes constamment dans un phénomène de codépendance, c'est-à-dire que vous ne savez pas par vos propres moyens vous apporter du bonheur, vous faire vous sentir vivante, ou vous sentir exister. Donc vous vous réalisez à travers l'autre. C'est pour ça que vous êtes tout le temps codépendant. Et c'est pour cela en réalité que c'est un sauvetage pour vous qu'il faut faire. En investissant du temps dans votre vie, dans vos envies et dans ce que vous avez envie de voir et de vivre. Et pour certaines personnes, justement, se centrer sur elles, eh bien c'est quasiment impossible. Connaître ses besoins et ses désirs et savoir ce qu'elles ont envie pour le futur, c'est vraiment source d'anxiété, voire même d'angoisse. Et en fait, il y a vraiment une nécessité à être ancré dans sa vie, à être aligné à ce que nous sommes au lieu d'être câblé sur la fréquence de l'autre. Et c'est très paradoxal parce qu'en ayant le syndrome du sauveur, on peut aussi avoir cette sensation d'être super bien ancré, car il faut quand même avoir une certaine force mentale. Pour le faire, pour essayer de sauver l'autre, il faut essayer de tenir la barque quand il s'agit de sauver quelqu'un. Mais en réalité, nous sommes ancrés avec des racines qui sont parasitantes, liées justement à ce syndrome de toujours vouloir sauver l'autre. Et surtout, on est ancré avec, pas nos racines, mais les racines de l'autre. Parce que quand on ne sait plus ses besoins ou ses désirs, et quand on pense se réaliser à travers l'autre, c'est ça la réelle problématique. Et ce mode de fonctionnement, ça demande d'apprendre à recevoir aussi de l'amour. Et dans tous les sens du terme, apprendre à recevoir son amour et apprendre à recevoir celui de l'autre. Et c'est ça la majeure difficulté justement de ces personnes qui sont programmées pour prendre constamment l'autre en charge. C'est qu'elles ne savent pas s'abandonner. Comme elles n'ont jamais été enlacées dans des bras qui les rassurent et qu'elles réclament à l'autre la part d'amour qu'elles n'ont jamais reçue dans leur enfance, bien c'est comme une espèce de quête insatiable en réalité. Et je suis sûre qu'en disant ces paroles-là, ça vous touche. Vous, la personne qui est toujours là pour les autres. Mais qui est là pour vous ? Et c'est souvent cette phrase que les personnes avec le syndrome du sauveur peuvent se répéter avec une espèce de fatigue permanente, que personne ne se comporte pareil envers elle. Eh bien, j'ai une question justement, si vous vous sentez concerné par ce syndrome du sauveur. Est-ce que vous laissez la place pour l'autre dans votre vie pour le faire, pour être là pour vous ? Les autres vous aiment pour ce que vous êtes réellement, tel que vous êtes, et non pour les soins ou les services que vous pouvez potentiellement leur apporter. C'est vraiment un puissant fond de penser cela. Et surtout, ça bouffe une énergie monstre de penser qu'inconsciemment, il faut constamment apporter, être là et rendre des services pour être aimé. Je vais vous le répéter, hein, justement pour que vous puissiez réellement bien le comprendre, que les autres vous aiment pour ce que vous êtes, tel que vous êtes, et non pour les soins que vous apportez. Ils vous aiment et ils vous acceptent pleinement pour ce que vous êtes, autant dans vos ombres que dans vos lumières. Et il y a une vraie nécessité à ce que vous acceptiez d'être touché par l'autre, d'être regardé, d'être aimé. Acceptez que vous méritez aussi que l'on vous apporte l'amour pour ce que vous êtes. Et dans cette quête insatiable d'amour que vous réclamez inconsciemment, vous ne pourrez accéder qu'à l'amour véritable qu'une fois que vous aurez appris à le recevoir pleinement. Et pour cela, d'abord, il y a donc la nécessité de connaître votre juste place dans une relation. Et ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas votre rôle de sauver l'autre. Tout comme ce n'est pas son rôle de vous sauver. Chaque âme s'incarne avec ses propres thèmes à travailler et ses blessures à dépasser. Sauf que si vous venez constamment sauver l'autre dans sa vie, à aucun moment il ne s'agit d'un sauvetage, mais plutôt d'un sabotage. Nous avons tous un chemin à suivre. Et ce qui nous fait avancer justement sur notre chemin, c'est les épreuves que nous allons dépasser, la sagesse que nous allons acquérir. Et en fait, la souffrance, ça fait partie de l'incarnation. Les épreuves, c'est ce qui nous fait évoluer justement, donc avancer sur notre chemin de vie. Mais vouloir constamment sauver l'autre, c'est loin de lui rendre service. Et ça peut même le ralentir, car si vous prenez tout le temps le rôle du sauveur, ce n'est pas à lui de faire le travail finalement, mais bel et bien à vous. Et il n'a plus le temps d'apprendre de ses erreurs et de les dépasser. Le libre arbitre, ça fait partie de notre incarnation. C'est-à-dire que nous avons le choix. Le pouvoir de choisir comment nous souhaitons traverser notre chemin. Mais sauver l'autre, c'est aussi lui couper de son libre arbitre. Et vous allez me dire, oui, mais en fait, il choisit d'accepter mon aide. Donc, c'est le fait aussi d'exercer finalement son pouvoir de libre arbitre. En soi, oui, mais qui a envie d'aller se plonger dans sa souffrance ? Donc c'est vraiment important de redonner de l'autonomie à l'autre, parce que ça va lui permettre de non plus vivre dans une espèce de vie pleine d'illusions, dans cette illusion que vous serez toujours là pour lui, que vous allez toujours finalement répondre à ses problèmes à sa place. Et en lui redonnant de l'autonomie, ça lui permet d'avoir une vision de sa vie réaliste. Et ça lui redonne la responsabilité de celle-ci surtout. Un autre point aussi que je voulais aborder avec vous, c'est que souvent les personnes qui ont ce syndrome du sauveur, eh bien ont cette espèce de sensation d'être coincées dans ce rôle et ils ont aussi le diplôme de la victimisation. Alors ça vraiment ils ont la palme de ça, mais en réalité c'est une illusion. Parce que vous n'êtes pas victime. Et on peut souvent entendre une espèce de discours de reproche face à l'autre. Oui, mais il est comme ça, c'est un irresponsable, X ou Y ne sait pas se débrouiller. Donc, vous êtes la victime, mais vous choisissez de le sauver. À aucun moment, l'autre est votre bourreau. Vous êtes vous-même votre propre bourreau parce que vous prenez la responsabilité de le sauver. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il est vraiment hyper important de prendre la responsabilité de ses actes. Et vous n'êtes pas la victime quand vous comprenez qu'à tout moment, vous avez le choix et le pouvoir de reprendre votre juste place, de vous investir dans une relation de manière saine et équitable, ce qui vous permettra d'avoir beaucoup plus le temps de vivre pour vous et de non vivre votre vie à travers celle de l'autre. Vous avez la toute puissance de votre vie et c'est vraiment à vous de décider. Et ce qui laissera justement aussi l'espace pour que l'autre reprenne sa place dans la relation de manière saine et équitable, et en faisant cela, justement lui laissant de l'espace, ça lui laisse la possibilité d'explorer son espace d'amour pour qu'il puisse justement vous en donner aussi à son tour. Vous éduquez l'autre de la façon dont vous avez envie qu'il vous traite. Même si on est des adultes, on marche aussi comme des enfants, c'est-à-dire qu'en fait, on va venir s'adapter aux codes et aux normes de l'autre personne. Donc inexorablement, si vous vous placez constamment en position de celle qui écoute, dans un dialogue, vous laissez pas la place à l'autre pour que lui vous écoute. Mais surtout pour que ça soit le cas, il faut d'abord que vous appreniez à parler et à accepter votre sensibilité et votre vulnérabilité. Parce que bien souvent, le syndrome de la... Bien, il est un peu livré, si je peux dire, avec un masque. Le fameux masque soit du joyeux, tout va bien dans ma vie, je vais bien, j'aime la vie, ou celui de, non mais t'inquiète, je suis solide comme un roc. Mais ça, ce ne sont que des façades. Observez bien que dans tous les comportements qui sont souvent bien tranchés, voire même extrêmes, demandez-vous quel est l'opposé. Et vous trouverez la réponse à ce que la personne a le plus besoin. En l'occurrence ici, tout ce que je donne, eh bien en fait j'ai besoin de le recevoir. Et je suis même en attente, voire j'exige de le recevoir. C'est donc hyper important d'être honnête envers soi-même. De faire face à ces comportements-là, de les reconnaître. Oui, potentiellement c'est peut-être un masque. Oui, c'est vrai que j'ai du mal à ce que l'autre vienne vers moi. Et toutes ces choses-là. Et il n'y a que en étant dans cette démarche-là que vous allez pouvoir commencer ce travail. Si vous vivez dans une illusion, à aucun moment il y a cette possibilité d'évolution. Un autre point aussi que je voulais aborder avec vous, c'est les attentes. Alors, parce que bien souvent, le syndrome du sauveur, eh bien, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attentes envers l'autre. Un peu à l'image du discours « Après tout ce que j'ai fait pour la personne !» Et en fait, le sauveur, il a souvent beaucoup d'attentes envers l'autre et estime que l'autre devrait lui apporter ce qui lui a apporté, à l'image de beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute, beaucoup de soutien, ou même potentiellement beaucoup de service. Donc, il peut être aussi souvent dans le reproche envers l'autre et avoir des discours très accusateurs et moralisateurs. Partez d'ores et déjà du principe que le rapport dans la relation est déséquilibré. Donc, la première chose, c'est que vous ne lui donnez pas la possibilité de vous écouter, de potentiellement répondre à vos besoins ou à vos envies, parce qu'il ne trouve pas sa place et que même potentiellement, vous ne lui ouvrez pas votre porte pour que vous puissiez recevoir son amour. Donc, pour résumer un peu les grands points de ce podcast, la personne qui est constamment dans ce syndrome du sauveur a plus que besoin d'aller travailler sur elle-même, a besoin de se recentrer sur ses désirs et ses envies, de s'aligner dessus et surtout de se réaliser à travers ses propres désirs et besoins plutôt que ceux des autres. De faire aussi un travail sur ses ombres intérieures, ce qui va lui permettre de s'accepter pleinement tel que la personne est dans son entièreté. Et ça lui permettra de comprendre qu'elle mérite d'être aimée telle qu'elle est et qu'elle aussi, elle peut être finalement l'objet de l'attention. Et l'un des plus gros travaux, ça va être de venir s'ouvrir au monde. Parce que c'est le plus beau cadeau que vous puissiez faire. Et il n'y a que comme ça que vous pourrez apporter toute votre lumière au monde. Et si jamais, après tout ce que j'ai décrit par rapport à ce syndrome du sauveur, vous sentez que c'est quelque chose qui vous pèse véritablement au quotidien, eh bien c'est exactement ce que je travaille en coaching de vie. Et si jamais ça vous intéresse et que vous avez envie justement d'aller un peu plus loin dans le travail, dans votre travail sur votre développement personnel, eh bien je peux vous accompagner à cela. Donc pour démarrer un coaching avec moi, il suffit simplement de remplir le formulaire d'inscription qui est sur mon site internet. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. J'espère que ce podcast vous aura aidé à comprendre un peu plus les rouages de ce syndrome du sauveur. Je vous invite à le partager autour de vous et à l'envoyer à une personne que ça pourra aider. Pour rejoindre ce mouvement de femmes qui souhaitent révéler leur lumière intérieure, vous pouvez me retrouver sous mon Instagram sous le nom de Stéphanie Solina. Le lien est dans la barre d'infos. Et si vous avez également envie que je vous accompagne en coaching de vie holistique transformatif, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet. Et afin qu'ensemble on fasse grandir cette chaîne de podcast L'Amoureuse, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et une note. Alors ça prend quelques secondes pour vous, mais c'est vraiment d'une aide précieuse. Vous pouvez également vous abonner afin d'être prévenu dès qu'il y aura un nouvel épisode. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain podcast. En attendant, prenez soin de vous.